France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité par Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Édouard Philippe a répondu aux attaques portées par la haut-commissaire aux droits de l'homme de l'ONU. Michel Bachelet avait encouragé le gouvernement français à poursuivre le dialogue et demandé urgemment une enquête approfondie sur tous les cas rapportés d'usage excessif de la force autour des mobilisations des Gilets jaunes. Dans la foulée, le Premier ministre a donc répliqué sur BFM TV hier soir. Il faudra expliquer à Madame le haut-commissaire l'ensemble des faits d'extrême violence, notamment contre les forces de l'ordre ou les biens publics. Et qu'en France, on a un état de droit, selon les mots du chef du gouvernement. On n'a pas attendu le haut-commissaire pour faire la lumière sur l'ensemble des faits dès lors qu'il y a des plaintes, a ajouté Édouard Philippe. Le Premier ministre, qui s'est également exprimé à propos de la situation en Algérie, affirmant que la France n'a aucune indifférence, mais ne veut se livrer à aucune ingérence, selon les mots du Premier ministre. Alors qu'en Algérie, les autorités martèlent que malgré la contestation sans précédent suscitée par la candidature à un cinquième mandat du président Bouteflika, les conditions sont actuellement réunies pour organiser l'élection présidentielle le 18 avril prochain, conformément à la Constitution, dans les conditions requises de transparence, de sérénité et de quiétude, a affirmé le ministre algérien des Affaires étrangères hier. Au lendemain de l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé, la prison de Condé-sur-Sarthe en Normandie est restée bloquée toute la journée par le personnel pénitentiaire hier. Ce mouvement de contestation a été rejoint par d'autres établissements en France et plusieurs syndicats, notamment FO, appellent à poursuivre les blocages aujourd'hui. Hier soir, seules deux prisons, celle de Condé et celle de Rouen, restaient bloquées en fin de journée, selon l'administration pénitentiaire. À Grenoble, une marche blanche silencieuse a rassemblé 1500 à 2000 personnes hier pour rendre hommage aux deux jeunes du quartier Mistral morts samedi dans un accident de scooter alors qu'ils étaient poursuivis par la police. Des violences urbaines ont eu lieu dans la nuit. Reportage dans le journal de 6h30 sur France Culture.
Les éditions Radio France présentent Papier, la revue de France Culture. Au sommaire de ce numéro, un grand dossier sur les populismes. Dans ces temps de contestation et de grands débats, la démocratie est-elle en danger ou en train de se réinventer? Historiens, sociologues et philosophes répondent. À lire également une conversation avec la comédienne Emmanuelle Laborie, une enquête sur les transgenres, une masterclass inédite de Salman Rushdie et un éclairage nouveau sur les femmes de la préhistoire. Retrouvez dès à présent Papier en kiosque et en librairie.
Il est 6h02 sur France Culture, c'est un réveil en douceur avec Toufik Hakem.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Voilà 20 ans déjà qu'elle sillonne la Méditerranée en chantant, en construisant des ponts entre deux pays, deux continents, entre musique d'aujourd'hui et mélopée du passé, entre textes personnels et poésie millénaire. Souad Massi, de port en port, d'Alger à Paris, de Cordoue à Bagdad, est mon invité aujourd'hui. Bonjour tout le monde.
Le réveil culturel. Jeudi, musique.
Bonjour Saad Massi.
Bonjour.
Vous serez en concert demain. Demain, c'est le 8 mars, à l'Institut du Monde Arabe, en hommage aux femmes. C'est dans le cadre de Arabophonie, le festival musical des arts et des idées. Mais on vous a vu bien avant, c'est-à-dire la semaine dernière, à la place de la République, avec les manifestants algériens. On en parle dans un instant. هل أنا حر طليق أم أسير في قيود هل أنا قائد نفسي في حياتي أم مقود. Je pensais qu'on allait parler de musique, je pensais qu'on allait parler de vos albums, de vos projets, Souad Massi, mais l'actualité vous a rattrapé, nous a rattrapé l'actualité algérienne. On vous a vu dimanche dernier à la place de la République, au milieu des manifestants algériens contre le cinquième mandat du candidat président non sortant, Bouteflika. C'est spontanément que vous vous êtes rendu à la place de la République pour chanter, Sohrab Massi ?
À chaque fois que je vois nos informations, je lis un article, je vois les Algériens, les Algériens qui manifestent leur mécontentement contre cinquième mandat. C'est vrai que j'étais très très débordée par l'enregistrement de mon album, mon dernier album. Et j'ai voulu participer, j'ai voulu être parmi les miens.
Ouais. Enfin, parmi celles et ceux qui disent non.
Bien sûr, celles et ceux qui disent non et qui veulent le changement, le départ de ce système. J'ai chanté une chanson qui est très symbolique pour moi. C'est une lettre à Sihmed. Et voilà, j'étais très contente d'être parmi les citoyens et citoyennes algériens.
Bon, c'est un acte de militantisme. Vous n'êtes pas connue comme une chanteuse engagée, Sohrab Massi, et pourtant, avec l'âge, mais avec le temps, avec ce qui se passe en Algérie, vous vous impliquez de plus en plus.
Je suis pas engagée comme certains qui se mettent en avant, peut-être, mais j'ai ma façon de dire les choses avec ma musique, avec mes chansons, avec mes idées. Je sais pas, il y en a certains qui pensent que je suis engagée, d'autres pas.
Vous l'êtes, vous vous sentez impliquée?
À ma façon. Je partage des idéaux auxquels j'y crois. Le partage, la démocratie, la liberté, je les défends avec mes moyens, avec la musique, avec la parole.
Sohrab Massi, vous avez commencé votre carrière en Algérie, vous étiez une fille très timide, ce qui ne vous empêchait pas de vous transformer sur scène, puisque vous avez commencé avec du rock, avec un groupe de rock, et puis ensuite vous avez eu une carrière solo plutôt dans la folk, puisque vous étiez guitare-voix et que vous repreniez des ballades qui ont plu aussi bien aux Algériens qu'au reste du monde, puisque dans les années 90, vous venez à Paris, vous vous installez à Paris, et avec votre premier album, vous avez tout de suite connu un succès, plus qu'un succès d'estime, puisque j'ai eu l'occasion de vous voir en concert, c'est très souvent complet. Et qu'est-ce que vous racontez dans vos chansons? Très souvent, les gens qui viennent vous voir, Sohrab Massi, sont emportés beaucoup plus par votre attitude, par la musique, ou ils se font traduire vos propos?
Je suis mal barrée parce que j'aime pas trop parler de moi. J'ai du mal à...
Eh, c'est pourtant l'exercice, hein.
Oui, je sais. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui viennent me voir. C'est sincère ce que je dis, parce que je vois dans leurs yeux, quand je chante, l'amour qu'ils me portent. Et je raconte, c'est du vécu ce que je raconte, des choses que j'ai vécues, qui me touchent, où je me suis toujours inspirée de vraies histoires. Et il se trouve que ces gens-là se retrouvent dans ces histoires. Et on partage, je partage une certaine émotion, une certaine intimité.
À l'époque, votre premier album, Raoui, c'était plus une musique folk. On vous appelait la Tracy Chapman d'Algérie. Ouais. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que vous ne refusiez pas à l'époque.
C'est une très belle référence dont je suis fière, comme John Baez.
Ouais.
Juste que quand j'étais jeune, c'est vrai que ça me dérangeait un petit peu. Parce que je comprenais pas pourquoi il fallait me comparer. J'avais 25 ans, faire. Mais maintenant, avec l'âge, je comprends qu'il fallait une référence pour me situer pour les gens qui me connaissent pas.
Et depuis, vous êtes installé à Paris. Et ce qui est étrange avec vous, Sohrab Massi, c'est-à-dire vous qui faisiez de la musique dite occidentale en Algérie, depuis que vous êtes en France, c'est plutôt une quête des racines. Vous allez chercher du côté de la poésie arabe millénaire, des musiques andalouses, vous faites revivre l'âge d'or de Cordoue. Cette quête des racines, elle est très présente dans vos derniers albums.
Je ne vais pas vous contredire sur cette vision qui est juste. Et j'ai toujours rejeté mes racines ou ma culture quand j'étais en Algérie. J'étais un petit peu rebelle et c'était juste ma façon de dire que je rejetais ces non-dits, je rejetais ces tabous.
Et surtout l'assignation, hein, vous vouliez être ouverte au monde.
Au monde, tout à fait. Et quand je suis arrivée en France, j'ai découvert, bien sûr, une très belle ville qui est Paris, l'ouverture, la beauté, l'importance qu'on donne à la culture. J'ai adoré ça, mais il me manquait les rues de mon enfance, il me manquait la langue chantée, il me manquait des odeurs de jasmin, de fleurs d'oranger, de l'odeur du pain qu'on sent en sillonnant les rues. Plein de... Et c'est vrai que j'étais... Il y avait beaucoup de nostalgie et j'ai écrit pas mal de chansons sur ce thème.
Mais vos recherches sur les musiques anciennes et sur les poètes arabes ou andalous anciens, ça répondait à quel désir?
Alors, grâce à la belle énergie qui m'entoure, j'ai eu, avec toute modestie, du succès en Europe. Et tardivement, ce succès est arrivé du Moyen-Orient. Il y avait quand même j'avais quelques critiques, hein, c'est normal. C'est quelque chose qui me dérange pas tant que c'est constructif. On me disait, par exemple, que les Algériens ne maîtrisaient pas ni la langue arabe, ne connaissaient pas beaucoup de choses sur l'histoire. Et j'ai voulu...
Relever le défi.
Relever le défi. qui était quand même à sa juste valeur.
Moi, la berbéro algérienne de Paris, je peux m'intéresser à la culture arabe savante.
Voilà, d'origine kabyle et qui aime la poésie, la beauté. Et la beauté appartient à tout le monde. C'est ce que je voulais dire aussi, qu'il faut être tolérant dans la vie. C'est pas parce que je viens pas d'Égypte ou de Syrie que je ne peux pas m'intéresser à un beau poème. Voilà, c'était pour dire aux gens que tout simplement que la beauté, que comme les connaissances, comme les sciences sont ouvertes à tout le monde.
Souad Massi est notre invité aujourd'hui.
بيك تكون رواية حكي لي على ناس زمان حكي لي على ألف ليلة وليلة ولا لونجة بنت الغولة ولا ولد السلطان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية احكي وانسى باللي احنا كبار في بالك اللي رانا صغار ونمنو كل حكاية حكينا على الجنة حكينا على النار ولا الطير اللي عمره ما طار فهمنا معنى الدنيا حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية حكي يا راوي كيما حكاولك ما تزيد ما تنقص من عندك كل شفا ولا بلا حكي ونسينا مهاد زمان خلينا في كان يا ما كان في كان يا ما كان حاجيتك ما جيتك ودينا بعيد مدى الدنيا حاجيتك ما جيتك كل واحد منا في قلبه حكاية كل واحد منا في قلبه حكاية.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Oula, Saad Massi, ça ne nous rajeunit pas. Cette chanson a tout juste 20 ans aujourd'hui. Rawi, le conteur. C'est comme ça que vous avez fait votre entrée dans la scène médiatique. C'est comme ça que vous vous êtes fait connaître. Vous
avec étiez cette chanson.
Toute jeune, oui. Juste avec votre guitare. Et c'est une chanson de nostalgie. Et là, on a la nostalgie de cette chanson de nostalgie. Alors, dans cette chanson, vous parlez effectivement des anciens contes, des fables, des conteurs, et votre envie de perpétuer ce...
De rêver, et de oui, continuer de rêver, de ne pas faire attention à mon âge. Oui. De cette tradition aussi. Parce qu'on a perdu cette tradition, malheureusement. On n'a plus ses grands-mères, sa tante qui nous raconte, qui nous berce et qui nous raconte des histoires. On n'a plus le temps et on est happé par la vie de tous les jours, par la
alors,
télé.
Alors qu'est-ce que vous chantez à vos enfants, Saad Massi?
Qu'est-ce que je leur chante? Ouais. Je leur parle, je leur chante pas en fait. Je leur parle. Je leur parle de la vie, des expériences.
Comment ça, vous leur chantez pas?
Non, je leur chante pas parce que. Mes enfants, depuis qu'ils sont tout petits, j'ai deux filles toutes petites, ça les touche beaucoup, mes chansons. Ça les faisait pleurer, en fait. Parce que quand je vais chanter pour elles, ça veut dire que je vais partir, je vais les laisser, et du coup, je leur chantais pas.
Incroyable.
Je chante pour les autres.
Bon, donc demain, vous serez à l'Institut du Monde Arabe pour le festival Arabofolie, un concert. Je suis sûr que vous allez être... Vous allez consacrer ce concert non pas en hommage au combat des femmes, comme c'était prévu avant, mais à ce qui se passe en Algérie, puisque on attend avec anxiété là, encore la marche de demain.
Je suis très positive et confiante, vu comment ça se passe, vu la maturité des manifestants et des manifestantes. J'ai un rêve, moi aussi. Je rêve de liberté et de démocratie et c'est les mêmes rêves que eux partagent et il y a pas de raison, je reste positive.
Vous allez souvent à Alger, votre ville natale?
Ah oui, j'allais bien sûr, je vais au moins 4-5 fois dans l'année.
Pour chanter ou juste pour voir vos amis?
Non, pas pour chanter.
Votre famille.
On m'invite pas pour chanter en Algérie, je vais voir juste ma famille et mes amis.
Pourquoi on vous invite pas pour chanter? Parce que
j'ai au début je ne savais pas, mais je me doutais que certaines de mes chansons les dérangeaient et j'ai eu la confirmation que suite à ma chanson Une lettre à Si Ahmed où je dénonce la corruption, suite à cette chanson on m'a un peu marginalisée, on va dire.
Alors comment vous gardez le contact avec l'Algérie?
Avec le cœur.
Et avec la musique?
Avec la musique, bien sûr. Heureusement qu'il y a des moyens de se faire entendre, il y a Internet.
Vous travaillez encore avec des musiciens algériens aujourd'hui?
Non, pas du tout, j'aurais aimé faire des ateliers avec des artistes, j'aurais aimé travailler avec des associations, mais c'est pas possible, malheureusement.
Et tous ces voyages musicaux que vous avez accomplis, hein, c'est-à-dire vous êtes passé même par la variété française, on se souvient de votre duo avec Francis Cabrel, puisque vous êtes passé par une maison de disques française, vous avez travaillé avec des orchestres symphoniques, des orchestres de musique andalouse, vous êtes allé chercher le patrimoine poétique arabe, toutes ces expériences, comment vous les concevez, Saad Massi? C'est une envie de s'approprier cette culture, ou pour vous, ça fait partie de tous ces voyages que vous faites depuis maintenant une vingtaine d'années autour de la Méditerranée, autour des musiques de la Méditerranée?
Ça s'est fait d'une façon très spontanée, fluide. C'est-à-dire, au cours de certains festivals, on peut rencontrer des artistes, il y a il y a un feeling, on parle d'un projet, de faire une chanson ensemble.
Comme vous l'avez fait avec les chœurs de Cordoue, par exemple.
Avec les chœurs de Cordoue, tout à fait. Et d'autres, c'était après mes derniers spectacles au Moyen-Orient, j'ai rencontré des chefs d'orchestre qui m'ont proposé de me mettre à mon service leurs compétences. Et c'était de très très belles expériences musicales. Travailler avec 45 musiciens avec l'Orchestre du Caire, c'était quelque chose dont je rêvais même pas. C'est venu vraiment d'une façon très très spontanée et c'est des belles expériences.
Alors à propos d'expériences, vous préparez un album très attendu. Il faut être patient, moi jusqu'à l'été. Il y a quelque chose qui me dit qu'après vous allez nous dire qu'il faut encore patienter jusqu'en automne et après jusqu'en hiver. Vous êtes très perfectionniste, soit Sohad Massi.
Non, pas du tout. C'est vrai que j'ai, par la force des choses, j'ai dû retarder un petit peu l'enregistrement de mon album.
Mais là, vous nous embarquez où, par exemple, pour votre prochain album? Quel genre d'expérimentation êtes-vous en train de nous préparer?
Un autre Moutekelimoun? Non, c'était une parenthèse que j'ai voulu faire avec Moutekelimoun, avec ce projet, parce que j'adore la poésie.
Ouais.
Non, là, c'est le dialecte algérien. J'ai des chansons d'amour, j'ai un duo avec Hussein Sidi Bémol, une chanson qui parle un peu de ce qui se passe en Algérie.
Donc ça retour à la pop algéroise?
Pas la pop, c'est un pont que j'essaie de construire entre le folk et le chaabi algérien. Parce que j'adore aussi le chaabi. Chaabi qui est le chant populaire algérien, pour ceux qui ne connaissent pas.
Et c'est-à-dire, quand ils disent folk, ça veut dire que vous serez toujours à la guitare?
Ah, toujours. Il y a la guitare de début à la fin. Il y a toujours la guitare. J'ai juste introduit pour la première fois un violon, parce que j'en avais envie, et un accordéoniste aussi.
C'est vous qui arrangez vos titres, vos chansons sur Sohad Massi?
Oui, c'est moi qui arrange mes musiques, c'est moi qui compose. Après, il y a certains titres où que le début de la composition s'est fait avec mon frère Hassan, qui est musicien. Et là, au studio, j'ai beaucoup travaillé avec Mehdi Dalil, qui joue mandol avec moi et qui a proposé aussi certains arrangements.
Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas venir vous voir demain à l'Institut du Monde Arabe, dans le cadre de votre concert pour le festival Arabofolie, Sohad Massi, il y a un rendez-vous que vous avez plus ou moins organisé, celui du 3 avril, au Palace. Vous avez décidé de réunir plusieurs artistes algériens pour marquer leur opposition à la politique du régime algérien, à la politique de Bouteflika, et pour prendre position pour la démocratie en Algérie.
Je ne suis pas toute seule. J'ai des amis, des intervenants. On a pensé qu'il était important de marquer le coup, parce qu'on vit un moment historique quand même. Et il y aura des intervenants, il y aura Mazir Kateb, il y aura Hussein Moussi Hakim de Zebda, et d'autres intervenants, pour dire qu'il y a un seul héros, c'est le peuple déjà, qu'on ne vole pas cette belle révolution, et pour dire qu'on a envie de changement, qu'il faut écouter ces gens qui sont dans les rues, qui réclament le départ de ce système, et qu'il faut respecter ses revendications.
Tout ça en chantant?
Tout ça en chantant et en donnant la parole à des personnalités importantes, parce qu'on a des gens qui ont des choses à dire et il faut les entendre aussi.
Et vous n'avez pas peur de vous couper de cette autre base qui ne serait pas d'accord avec vos prises de position politiques?
Lesquelles? Le pouvoir qui est en place? Ils ont leur façon de voir les choses. Et non, j'ai pas peur, j'ai jamais eu peur. Je défends des idées en quelles j'y crois. Et voilà, j'ai envie d'être intègre et engagée à ma façon.
Est-ce que vous avez des relations avec des musiciens et des artistes restés en Algérie, Sohad Massi?
Pas du tout. Malheureusement, non. J'ai perdu mes contacts, de toute façon, dès que je suis partie d'Algérie en 99.
Et ce qui se fait là-bas, Vous l'écoutez, vous tenez
oui,
au courant
oui,
de ce
sûr.
Qui se fait?
Oui, bien sûr. Si, je suis en contact avec des artistes comme Babylone, par exemple, qui m'écrivent. Je suis un peu leur parcours, on va dire. Il y a d'autres groupes qui émergent. Et malheureusement, ils n'ont pas de soutien. Il n'y a pas de festival. Il se passe rien en Algérie sur la scène musicale, je veux dire. Ils n'ont pas les moyens. On ne leur donne pas les moyens. Moi, je me rappelle quand j'étais là-bas, malgré qu'il y avait la guerre civile, on arrivait quand même à se produire sur scène et il y avait quelques festivals qui existaient encore. Mais là, non.
Vous êtes une chanteuse à texte, une chanteuse avec une voix, une chanteuse avec un instrument de musique, la guitare. Souhad Massi, si on terminait un peu par évoquer le passé et vos débuts, quand je pense que vous avez commencé dans un groupe de hard rock.
Oui. Alors, je m'explique. J'ai fait partie de Atacore. Et j'étais vraiment la plus jeune dans ce groupe. La plupart, c'était mes aînés. Je les remercie parce qu'ils ont vraiment fait ma culture musicale. Ils m'ont appris beaucoup de choses. En fait, je faisais partie de la deuxième partie la première partie qui était folk et eux, ils faisaient du hard rock. Mais j'ai pas chanté le hard rock. Du hard rock, mais ceci dit, j'aimais beaucoup écouter du hard rock quand j'étais jeune.
Et à la question, que sont-ils devenus, vos amis?
Alors, il y en a qui continuent. Il y a Salem qui continue. À faire du hard rock, oui, bien sûr. Il travaille à la radio. Je ne sais pas si c'était le nom de la radio. Et, mais d'autres, ils ont arrêté parce que, voilà, c'est des pères de famille, ils ont des obligations, ils pouvaient pas continuer. De toute façon, quand on fait autre chose que de la musique commerciale, on peut pas vivre de son art en Algérie, ça on le sait.
Et vous, la guitare, qui vous a offert la guitare? Qui vous a mis une guitare entre les mains, Souhad Massi?
C'est mon frère Hassan. Il faut dire que je viens d'une famille d'artistes aussi. J'ai mon oncle Ariski. Et qui a fait de la musique classique et du jazz. Et quand j'étais jeune, j'allais souvent chez lui. Il habitait à Kitani, à Babeloued. Il avait une très très belle guitare flamenca. Il nous interdisait de la toucher. Et j'étais jeune, je montais sur une chaise et je la prenais. Et mon frère, pour mon anniversaire, m'a offert mon premier cours de guitare. C'était à l'Association des Beaux-Arts d'Alger.
Vous serez demain à l'Institut du Monde Arabe, Souhad Massi, pour un concert le 8 mars, dans le cadre d'Arabofolie. Et on l'a bien retenu, le 3 avril, concert en solidarité avec les combattants pour la démocratie en Algérie. Ce sera au Palace avec d'autres artistes. Merci d'être passé ce matin.
Merci beaucoup. ما ليس يبلغ من نفسه الثمن لا تلقى دارك إلا غير مكترث ما دام يسحب فيه روحك البدن فما يديم سرور ما سررت به ولا يرد عليك الفائت الحزن كم قد قتلت وكم قد مت عندكم ثم انتفت فزال القبر والكفن ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري.
Vous êtes sur France Culture, dans un instant les informations de 6h30, à suivre le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
France Culture présente les expositions Love de Ren Hang et Busy Living de Coco Capitane à la Maison Européenne de la Photographie. Artiste chinois subversif, disparu à l'âge de 29 ans, Ren Hang questionne le rapport à l'identité et à l'érotisme. Sa vision révèle un désir de liberté, hostile à la politique répressive de son pays. En écho, la jeune espagnole Coco Capitane, photographe de mode, pose un regard critique sur la société de consommation et sa relation avec la Chine. Ren Hang et Coco Capitane à découvrir jusqu'au 26 mai à la Maison Européenne de la Photographie à Paris, un partenariat France Culture.
De cause à effet, le magazine de l'environnement, Aurélie Luneau.
Du 9 mars au 13 avril, on change de jour et d'horaire. Retrouvez-nous le samedi soir à 20h pour décrypter, analyser, comprendre les enjeux de l'environnement, mais aussi et toujours pour faire des rencontres, comme avec la journaliste, réalisatrice et auteure Marie-Monique Robin, notre prochaine invitée.
L'avenir de l'humanité est en grand danger. Il est urgent d'agir ici maintenant. Et on sait ce qu'il faut faire, alors qu'est-ce qu'on attend ?
Rendez-vous le 9 mars pour connaître les solutions. L'environnement prend ses quartiers sur France Culture le samedi soir à 20h entre chiens et loups.
Vous êtes sur France Culture, tout de suite le journal de 6h30 avec Sophie Delpont.
Bonjour à tous. Le cardinal Barbarin sera fixé sur son sort aujourd'hui à 9h30. Le tribunal correctionnel de Lyon décidera de le condamner ou non, ainsi que 5 de ses collaborateurs pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs. Mais la bataille de l'opinion est déjà gagnée, nous dira le président de l'association La Parole Libérée. Dans ce journal, nous irons à Grenoble. Reportage au cœur de la Marche Blanche en mémoire des deux jeunes du quartier Mistral, morts samedi à l'issue d'une course-poursuite avec la police. En Irak, Human Rights Watch dévoile un rapport glaçant sur l'usage de la torture sur des enfants par les autorités irakiennes et le gouvernement régional kurde, parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir eu des liens avec Daesh. Et puis, dans une nouvelle polémique qui touche Donald Trump, le Washington Post affirme que le président des États-Unis, qui se vante souvent d'avoir été un élève brillant, aurait fait disparaître ses bulletins de notes de l'école privée militaire de New York, où il a étudié. Compte rendu signé Grégory Phillips dans un instant. Le cardinal Barbarin sera-t-il condamné pour non-dénonciation d'agression sexuelle sur mineurs ? Le tribunal correctionnel de Lyon doit rendre son jugement ce matin envers lui et envers 5 de ses collaborateurs au diocèse. Des actes commis il y a une trentaine d'années par le père Bernard Prena sur plusieurs dizaines de scouts de Sainte-Foy-les-Lyon. Mais quel que soit le jugement, selon Pierre-Emmanuel Germain-Thil, porte-parole de l'association La Parole Libérée, la cause des victimes a été entendue et c'est déjà une victoire acquise.
On a déjà pour nous une victoire, c'est celle de l'opinion publique et que les gens se soient appropriés ce sujet pour peut-être plus prendre conscience de l'ampleur du problème, hein, que ce soit dans l'église ou ailleurs. Donc le combat pour nous est déjà gagné, donc peu importe. On prendra acte de ce qui sera dit et puis en tout cas je pense que le plus gros du travail est fait pour que l'opinion publique justement se soit remise en question sur ce sujet. Je pense que toutes ces révélations qui sortent un peu partout, ça vient du fait que cette parole, elle a peut-être plus peur maintenant, grâce à toutes ces actions, de se libérer et de faire évoluer les choses. Donc on est déjà satisfait de ça, pour le bien de beaucoup de gens, en fait, tout simplement. Si notre action a pu faire avancer d'autres personnes, bah c'est tant mieux.
Des propos recueillis par Christophe Vincent. Après l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé à la prison de Condé-sur-Sarthe, beaucoup de questions restent en suspens. L'homme de 27 ans qui purgeait une peine de 30 ans et s'est radicalisé en prison s'est retranché pendant près de 10 heures avec sa compagne qui avait réussi à entrer dans l'établissement avec des couteaux en céramique. Parmi les interrogations, il y a celle de l'éventuel retour des djihadistes français sur le territoire. Invité de BFM TV hier soir, le Premier ministre Édouard Philippe a une nouvelle fois clarifié la position de la France à ce sujet.
Nous ne faisons revenir personne. La doctrine française a toujours été de dire que les Français qui se sont rendus coupables de crimes en Irak ou en Syrie ont vocation à être jugés en Irak ou en Syrie. La question sur l'éventuel retour, que nous ne souhaitons pas, puisque nous souhaitons qu'ils soient jugés sur place, de Français qui seraient détenus, non pas par les autorités syriennes, mais par les forces démocratiques syriennes, c'est-à-dire par les Kurdes, dans le nord-est du pays, pour l'instant, ces Français sont détenus. Ils ont vocation à être jugés là-bas. La seule question qui est très susceptible de se poser, ce serait si une modification de l'équilibre des forces dans le nord-est syrien conduisait à la libération de ces détenus et à leur éparpillement dans la zone ou dans d'autres pays, voire éventuellement à leur retour, mais à leur retour illégal vers la France. Alors, à ce moment-là, il faudrait se poser la question de savoir s'il n'est pas préférable qu'il soit détenu en France plutôt qu'en liberté ailleurs.
Édouard Philippe s'est également exprimé hier à propos de la situation en Algérie, affirmant que la France n'a aucune indifférence, mais qu'elle ne veut se livrer à aucune ingérence, selon les mots du Premier ministre. Alors qu'en Algérie, les autorités martèlent toujours que malgré la contestation sans précédent suscitée par la candidature à un cinquième mandat du président Bouteflika, les conditions sont actuellement réunies pour organiser l'élection présidentielle le 18 avril prochain, conformément à la Constitution, dans les conditions requises de transparence, de sérénité et de quiétude, a affirmé le ministre algérien des Affaires étrangères hier. Hier après-midi, près de 2000 personnes, selon les organisateurs, ont participé dans le calme à une marche blanche à Grenoble en mémoire de Fatih et Adam, 19 ans et 17 ans, qui sont morts dans un accident de scooter samedi soir en voulant échapper à un contrôle de police car ils roulaient sans casque et avec un deux roues volé. En tête du cortège hier, il y avait la famille d'Adam et des proches de Fatih. Véronique Pueyot a suivi la marche blanche.
Les familles des deux jeunes marchent en tête du cortège derrière une grande banderole où il est écrit « Adam et Fatih, plus jamais ça ». Encadrés par un service d'ordre dont les membres portent des t-shirts blancs, floqués avec le nom des deux victimes entourées d'un cœur, la foule est calme et recueillie. Cette jeune femme a tenu à être là.
Très important pour moi d'être ici, étant donné que c'est pas la première fois que ce genre de choses arrive. Pour dire assez, après Adama Traoré, Ziad Ebouna, je pense que c'est vraiment important maintenant de venir, de marcher pacifiquement.
Pour cet habitant du quartier Mistral, il fallait que la marche blanche soit digne en mémoire des deux victimes.
Il faut absolument qu'on puisse aider les familles à trouver la force de garder foi en la justice. Donc à partir de là, on se doit d'être solidaires tous ensemble. Ils auraient jamais dû mourir pour un banal contrôle de police. Le contrôle aurait pu se faire ultérieurement et donc à partir de là, il y a une souffrance immesurable et donc on se doit de soutenir les proches et les familles.
Avant que la foule ne se disperse, Eline, la cousine de Fatih, a porté le message des parents du jeune homme que les violences s'arrêtent. Cela ne sert à rien, a-t-elle dit. Ils veulent juste que justice soit rendue.
Véronique Pueyot. Il est 6h35 sur France Culture parce qu'ils sont soupçonnés d'avoir eu des liens avec Daesh. Des mineurs ont été torturés et condamnés par les autorités irakiennes et le gouvernement régional kurde. Et ce, au mépris de toutes les règles de droit international notamment. C'est ce qui ressort d'un rapport publié par Human Rights Watch qui se base sur des entretiens menés avec 29 enfants irakiens actuellement détenus. L'ONG demande à l'Irak qu'elle mette fin aux arrestations de mineurs. Valérie Crova a lu le rapport de Human Rights Watch.
Dès 2014, au plus fort du califat autoproclamé, Daesh a recruté des milliers d'enfants en Irak, certains de force, d'autres sous la pression de leur famille. Arrêtés par les autorités irakiennes ou par le gouvernement régional kurde, ces mineurs ont été reconnus coupables de terrorisme à l'issue de procès expéditifs et sur la base d'aveux le plus souvent extorqués sous la torture. Sur cette vidéo que publie Human Rights Watch, on voit les bras d'un jeune garçon marqué par des brûlures. Il raconte.
Ils éteignaient des cigarettes sur mon corps. Ils me frappaient avec des câbles et des bâtons. Ils nous ont torturés. Le policier kurde m'a dit de ne pas nier avoir fait partie de Daesh face au juge. Il m'a dit, si tu le nies, on va reprendre l'interrogatoire et te torturer. J'avais peur, alors j'ai avoué devant le juge.
Selon Human Rights Watch, les autorités irakiennes et le gouvernement régional kurde détenaient fin 2018 1500 enfants, parmi lesquels 185 étaient d'origine étrangère. Et l'ONG de défense des droits de l'homme de rappeler que les enfants impliqués dans des conflits armés doivent être réhabilités et réintégrés dans la société au lieu d'être torturés et emprisonné.
Valérie Crova. Dans l'affaire du géant chinois des téléphones portables Huawei, l'un des avocats de la directrice financière de l'entreprise, Meng Wanzhou, dit craindre des motivations politiques derrière la demande américaine d'extradition de sa cliente lors d'une audience hier devant un tribunal de Vancouver au Canada. On y reviendra dans le journal de 7h sur France Culture. Aux États-Unis, Donald Trump cherche-t-il à dissimuler toute ou partie de ses résultats scolaires? Le Washington Post affirme en tout cas que les bulletins de notes de Donald Trump, alors qu'il étudie dans une école privée militaire de New York, ont disparu, et ce, à la demande du milliardaire devenu président des États-Unis. Alors que régulièrement, Donald Trump se vante d'être un génie ou d'avoir été un étudiant particulièrement brillant, mais les documents attestant de ses résultats scolaires ou universitaires sont invisibles. À Washington, Grégory Phillips.
Donald Trump intègre cette école privée, la New York Military Academy, à l'automne 1959. Il va y passer 5 années. À l'époque, son père, Fred, pense qu'un peu de discipline fera le plus grand bien au jeune homme. Seulement, il n'y a aujourd'hui plus aucune trace du passage de Trump dans cet établissement. Le proviseur, aujourd'hui retraité, raconte au Washington Post qu'en 2011, on est donc 5 ans avant la présidentielle, des amis influents et fortunés de Donald Trump font pression sur l'école afin que les bulletins scolaires du milliardaire ne soient jamais publiés fusillés, ils sont aujourd'hui à l'abri, dans un coffre, et personne ne peut les voir. Plutôt étonnant quand on se souvient qu'à la même époque, en 2011, Trump exigeait de Barack Obama qu'il dévoile ses diplômes, remettant en cause son parcours universitaire. Et plutôt étonnant de la part de quelqu'un qui ne cesse de clamer ceci. J'étais un très bon étudiant, j'étais très bon, je suis une personne très intelligente. La semaine passée, devant le Congrès, l'ex-avocat de Trump, Michael Cohen, avait reconnu que l'une de ses missions était de protéger la réputation de son client, allant parfois jusqu'à menacer certaines institutions, mais sans préciser si c'est lui qui était à l'origine ou non de la disparition de ses bulletins scolaires.
De la pluie sur la majorité du territoire métropolitain toute la journée, à l'exception du bord de la Méditerranée, où seule la Côte d'Azur connaîtra des averses le matin, avant le retour du soleil l'après-midi. Soleil dominant aussi le long des Pyrénées. Les températures sont douces, comprises ce matin entre 6 et 17 degrés. 6 degrés à Clermont-Ferrand, 7 à Rouen et Grenoble, 9 à Paris, 11 à Bordeaux et jusqu'à 17 degrés à Ajaccio. Il est 6h40 sur France Culture, c'est l'heure du Journal des Idées. Avec vous, Jacques Millet, bonjour.
Bonjour Sophie Delpont.
En plein débat sur l'injustice fiscale, les économistes, des économistes, s'interrogent sur la meilleure manière d'améliorer la progressivité de l'impôt.
Oui, Sophie, a commencé par la création d'une nouvelle tranche pour les plus hauts revenus, une idée avancée notamment par Laurent Berger, le secrétaire général de la CFDT, aussitôt rejetée par le ministre de l'économie Bruno Le Maire, au motif que les Français qui touchent 2 500 euros par mois ne devraient pas voir leur impôt augmenter. Les décodeurs du quotidien Le Monde montrent que l'argument est fallacieux car il concerne les 20% les plus riches parmi lesquels 10% émargent bien au-delà de 2500 euros mensuels, pas loin du double en moyenne. Encore s'agit-il du niveau de vie rapporté à la taille du foyer et pas seulement du salaire. Pour l'INSEE, un salarié qui vit seul et gagne 2500 euros par mois se situera dans les 20% les plus riches. Mais un couple doit cumuler 5000 euros de revenus mensuels pour être considéré de la sorte, et même 6500 euros s'ils ont 2 enfants. Les notions de classe moyenne et de riche sont suffisamment vagues pour alimenter la confusion. Alors que Laurent Berger proposait de créer précisément donc une nouvelle tranche à un taux supérieur au taux le plus élevé actuellement de 45% et qui concerne la part des revenus supérieurs à 13 000 euros mensuels. Il évoque un taux donc de 60%, pardon, et qui viserait donc des revenus encore bien plus élevés que de 13 000 euros mensuels. Pour ces sujets complexes, la bonne information est essentielle. Dans les pages idées du quotidien consacrées à ces questions, l'économiste Stefania Stancheva cite une étude sur la perception et la réalité des inégalités qui montre que la demande de progressivité de l'impôt et de redistribution augmente lorsque les personnes sont informées de la réalité de la répartition des revenus dans leur pays. Et aussi que plus l'impression d'ascension sociale est faible, plus la demande de redistribution est forte, sauf si la question de l'immigration intervient. Plus on y est hostile, moins on est favorable à la redistribution, les immigrés étant alors perçus comme plus nombreux, moins qualifiés, plus pauvres et plus souvent musulmans qu'ils ne le sont. Conclusion de l'économiste, évoquer le danger de l'immigration est donc le moyen de faire reculer la demande de progressivité de l'impôt et de faire accepter une diminution de la redistribution fiscale. Alternatives économiques publie un hors-série sur l'économie en 2019. 3 économistes de l'OFCE, Pierre Madec, Mathieu Plane et Raoul Samponiaro, dressent un état des lieux suite aux mesures du gouvernement pour augmenter le pouvoir d'achat. Et d'abord, un constat, il a diminué ce pouvoir d'achat de 1,2% au cours des 10 dernières années, contrairement à la décennie précédente où il avait augmenté de 15%. La crise de 2008 est passée par là, ainsi que la dégradation du marché du travail, et notamment l'augmentation des contrats courts ou à temps partiel, mais aussi le choc fiscal mis en œuvre au tournant de 2010, hausse des prélèvements obligatoires sous la pression des marchés financiers et des règles budgétaires européennes, de la TVA, de la fiscalité locale, écologique et des cotisations sociales des salariés, ont fait apparaître un découplage entre les les ménages et les entreprises, bénéficiaires quant à elles du CICE, du pacte de responsabilité et de la baisse de l'impôt sur les sociétés. Paradoxalement, cette politique a pesé sur le pouvoir d'achat, mais elle a aussi renforcé le caractère redistributif du système en mettant largement à contribution les ménages les plus aisés. Reste que les mesures fiscales récentes, comme la baisse de la taxe d'habitation et des cotisations sociales, n'ont pas suffi à compenser l'effet négatif de la hausse de la fiscalité indirecte, tabac et écologie notamment, et de la CSG. En matière d'économie, les politiques exploitent les résultats de la recherche à la façon dont un ivrogne utilise un lampadaire pour s'appuyer dessus, pas pour s'éclairer, estimait l'économiste Jared Bernstein. La dernière livraison de la revue Regard croisé sur l'économie, publiée par La Découverte, porte sur les croyances et les rationalités dans cette science fortement mathématisée et statistique qui rechigne à s'afficher dans le cadre des sciences humaines du fait de sa prétention à la scientificité des sciences exactes, mais qui ne laisse pas de comporter de nombreux biais idéologiques, voire sentimentaux, si l'on pense à l'attachement au libéralisme ou à la théorie du ruissellement. Un champ intellectuel traversé de nombreuses controverses et de salutaires débats, des jeux à somme nulle que nous finissons par arbitrer à nos corps défendants. L'édito d'un riche numéro donc de cette revue pose la question: l'économie ne nous raconterait-elle pas des histoires? Alors en voici une. Au premier jour, Dieu créa le soleil et le diable créa les coups de soleil. Au second jour, Dieu créa le sexe et le diable créa le mariage. Au troisième jour, Dieu créa un économiste, le diable réfléchit et en créa un second. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
C'est l'heure des enjeux internationaux. Au sommaire aujourd'hui, le Nicaragua.
Oui, le Nicaragua avec cet accord annoncé mardi soir entre opposition et le gouvernement du président Daniel Ortega. Après presque 11 mois de crise politique, manifestations et répressions qui ont fait 325 tués jusqu'ici, le Nicaragua peut-il éviter une crise à la vénézuélienne? On va s'expliquer et voir ça avec vous. Hélène Roux, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes journaliste indépendante, spécialiste de l'Amérique centrale. Alors, le Nicaragua, c'est un des trois États qui était cité par les États-Unis de John Bolton dans la troïka de la tyrannie l'année dernière. Les manifestants reprochent au président Ortega, ex-révolutionnaire, sa gestion économique et humaine et puis sa longévité, hein, très grande. Sur la forme, il y a déjà eu une tentative de concertation, hein, en juin de l'année dernière, 2018. Cette fois, on parle de négociation. C'est déjà un progrès, et en quoi ça l'est?
Alors, c'est un progrès, ça dépend. En fait, le dialogue qui avait été commencé en mai-juin a été interrompu parce que il n'y avait aucune volonté du gouvernement de mener à bien cette négociation. Et actuellement, les pourparlers qui se sont engagés n'en sont, comme disent les Nicaraguayens, qu'à la charpente, c'est-à-dire que on est en train de négocier les points et les virgules et les termes d'un possible commencement à discuter les thèmes que la société nicaraguayenne souhaite voir aborder, en fait.
Et alors qu'on parle des planches ou des artisans de cette charpente, c'est des négociations qui se déroulent à 6 plus 6, 6 dans l'opposition, 6 du côté du gouvernement. Cette opposition, c'est l'Alliance civique pour la justice et la démocratie. Est-ce qu'on sait qui est-ce qui négocie? J'ai vu un seul nom, José Palais, c'est ça, un ancien diplomate pour l'instant, côté opposition pour l'instant.
Non, alors en fait, les négociations, d'abord l'Alliance civile est une partie de l'opposition qui est beaucoup plus large, en fait, que cette seule composante. L'Alliance civile a été formée par la Conférence épiscopale du Nicaragua au moment du premier dialogue, donc en mai-juin dernier. C'est une création un petit peu artificielle, dans laquelle ont été désignés ceux qui devaient participer, voilà. Et en ce qui concerne donc la composition de l'actuelle délégation de l'Alliance civile. Elle est le résultat d'une discussion préliminaire convoquée par le gouvernement avec un certain nombre de chefs d'entreprise, donc de représentants du secteur privé, des grands entrepreneurs qui et d'ailleurs on le voit dans la donc dans la composition de la négociation, puisque sur 5 négociateurs, il y en a 3 qui viennent de l'entreprise privée, et puis plus si on considère les suppléants.
Et quid alors, par exemple, du Movimiento Estudiantil du 19 avril ou le mouvement paysan? Est-ce qu'ils sont représentés dans ces négociations?
Alors, le mouvement étudiant est représenté par une personne, mais il faut savoir que au moment donc des événements d'avril sont nés un certain nombre de coordinations étudiantes qui ont plus à voir avec les lieux où elles se sont organisées dans les différentes villes, avec aussi des sensibilités différentes, hein, il faut le dire.
Et notamment à l'université autonome du Nicaragua.
Exactement. Celle de Managua, celle de León, etc. Donc il y a différentes expressions. Donc là, il y a un représentant étudiant et sa suppléante. Il faut aussi signaler quand même que dans cette table de négociation, en ce qui concerne les titulaires, il n'y a pas une femme. Hein. Il n'y a que des hommes. Pas une seule femme, déjà ça...
Alors qu'il y a un certain nombre de figures de l'opposition qui sont des femmes, justement.
Bien sûr, ouais. Bien sûr. Et en ce qui concerne donc le mouvement paysan, il n'était pas représenté au sein de la première... configuration de cette délégation, ni du côté gouvernemental, ni du côté évidemment de l'opposition. Alors en catastrophe, ils ont rajouté une personne qui en fait est peu représentative du mouvement paysan. Sur 2 personnes, il y en a sur 3 personnes, il y en a une qui a été reconnue, disons. Mais il faut savoir que le négociateur qui avait été désigné pour le premier dialogue en mai-juin a été arrêté et est actuellement en prison. Il s'agit de Monsieur Medardo Mairena, et non seulement il est en prison, il a été arrêté, mais il a été condamné à 216, je précise, hein, je répète, 216 années de prison par la justice nicaraguayenne.
Et c'est pas la seule figure de l'opposition d'ailleurs arrêtée. Il y a eu 600 arrestations au sein des manifestations. Des
777.
Vos chiffres sont plus à jour que ceux qu'on a via l'AFP, dont des journalistes aussi, hein, Miguel Mora et Lucia Pineda de la chaîne 100% Noticias. Alors, quelle raison il y a de croire que, puisque il semble qu'un accord soit possible, en tout cas voulu par, dit le communiqué, avant le 28 mars, sur quoi peuvent s'entendre ces négociateurs, disons, pour une sortie de crise et un arrêt des manifestations?
Alors, je pense que l'agenda du gouvernement n'est pas la même que celui des négociateurs de l'opposition. Il est assez évident que pour le gouvernement, il s'agit de désamorcer les possibles sanctions internationales, mais surtout, il s'agit, et là, il y a des points d'accord avec une partie des négociateurs de l'opposition, il s'agit de mettre au premier plan le thème économique, de récupération économique du pays.
Qui est en récession.
Qui est en récession, évidemment. En raison de la crise, et que pour l'opposition, en tout cas celle qui ne participe pas forcément à l'Alliance civile, c'est-à-dire qui est restée en marge, le thème le plus important, ce sont la tenue d'élections libres. D'abord, la libération de tous les prisonniers politiques. Et ça aurait été d'ailleurs une précondition Enfin, on avait les gens de l'opposition avaient demandé que ça soit une précondition au dialogue.
Alors qu'une centaine de personnes ont été libérées en début de semaine.
Alors elles n'ont pas été libérées.
Assignées à résidence.
Elles ont été assignées à résidence, ce qui est très différent. Et d'ailleurs, en fait, il n'y a aucun critère clair sur le choix qui a été arrêté de libérer ces personnes, puisque en réalité, ces libérations, en tout cas, ces changements de statut juridique auraient dû être notifiés et en fait soumis à une décision de justice qui n'a pas du tout été le cas. Donc déjà, même dans ce cas-là, la procédure n'a pas été respectée. Donc c'est complètement arbitraire en fait.
Bon, et du coup, alors on voit cette pression économique. Vous avez parlé de la présence des milieux entrepreneuriaux au sein des négociateurs. Il y a aussi le souci de la part du gouvernement d'éviter ce qu'on pourrait appeler une bataille des droits de l'homme, hein, puisque c'est la session du comité des droits de l'homme à l'ONU en ce moment. Quelles raisons y aurait et quels moyens y aurait de penser que ces négociations et cette feuille de route le 28 mars pourraient effectivement conduire à un consensus, disons, sachant que l'Église catholique aussi doit donner sa réponse pour participer ou non en tant qu'observateur aux négociations.
Alors, le problème actuellement, c'est qu'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord sur qui seront les garants de la négociation. Et on est en train de s'accorder, enfin il y a une bataille de termes sur le fait qu'on parle de négociateur ou de médiateur ou de garant et témoin, ce qui est très différent. Donc la conférence épiscopale a été sollicitée, mais en gros ils ne veulent que certaines personnes et pas d'autres. Actuellement ce qui se dessine, c'est que la conférence épiscopale et un certain nombre d'évêques qui ont un poids politique important au Nicaragua depuis longtemps disent que eux, dans ces conditions, ne participeront pas à la négociation. Et c'est ça le grand problème, sachant aussi que le gouvernement, pour l'instant, n'a pas souhaité qu'il y ait des médiateurs internationaux.
Bon, bah écoutez, à suivre, à voir si jusqu'au 28 mars, effectivement, un accord est possible avec des vrais garants. Ce sera à suivre. On aura l'occasion d'en reparler avec vous. Merci beaucoup en tout cas ce matin, Hélène Roux, journaliste indépendante, spécialiste de l'Amérique centrale. Merci.
L'épidémie de grippe est là. Pour éviter de l'attraper ou de la transmettre à votre entourage, des précautions simples peuvent être adoptées. En cas de fièvre supérieure à 38 degrés, courbature ou grande fatigue, restez si possible chez vous et évitez les contacts avec les personnes fragiles comme les personnes âgées ou malades, les nourrissons et les femmes enceintes. Demandez conseil à votre pharmacien ou consultez votre médecin traitant si nécessaire. Ne vous rendez pas aux urgences sans avis médical et contactez le 15 uniquement en cas d'urgence. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.
Stanley Kubrick, une odyssée. Schubert, Bach, Purcell dans Barry Lyndon. Ligeti pour 2001, l'Odyssée de l'espace. Bartok dans Shining. Les 16 et 17 mars, le chœur et l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Bertrand Chamaillou, Jean Rondeau et Alan Gilbert vous proposent les musiques des films majeurs de Stanley Kubrick à l'Auditorium de Radio France. À Radio France, la musique fait son cinéma. Renseignements, maisondelaradio.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, c'est l'heure des matins. Avec vous, Guillaume Erner, bonjour.
Bonjour Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et vous souhaitiez rendre hommage à Jean Starobinski.
Et oui, il est mort hier à l'âge de 98 ans et je me suis rendu compte, au travers du bureau des matins, des camarades avec qui je travaille, que son nom était inconnu des trentenaires et moins avec qui je travaille quotidiennement. Alors, voilà comment présenter cet homme et ses travaux, un homme qui représente deux cultures qui sont aujourd'hui en péril, la littérature et la psychanalyse, deux manières de voir, qui soulignent les complexités de l'homme, alors que tout est fait aujourd'hui pour faire croire que l'homme est une mécanique simple. Un exemple qui va vous permettre de comprendre comment entre Starobinski et aujourd'hui, notre perception de l'être humain s'est dégradée. Cet exemple, c'est l'enfant et les bonbons. Alors, l'enfant et les bonbons, aujourd'hui, cela évoque par exemple le test du marshmallow. C'est un paradigme, un dogme de la psychologie contemporaine. Il repose sur un principe simple. Combien de temps un enfant va-t-il résister à un marshmallow? Préférera-t-il un marshmallow tout de suite plutôt que deux dans 10 minutes? Ce test du marshmallow a donné lieu à énormément de travaux. Maintenant, la version de Starobinsky, elle met en scène un enfant célèbre face à des bonbons. Cet enfant célèbre, c'est Jean-Jacques Rousseau. Starobinsky évoque le désir de Rousseau pour les friandises. Rousseau qui, d'après ses confessions, n'a jamais convoité qu'à la dérobée, comme l'écrit Starobinsky. Utile en poche tout l'argent nécessaire, Jean-Jacques Rousseau a honte d'entrer chez le pâtissier. Sa gêne est insurmontable et Rousseau de dire « J'aperçois des femmes au comptoir, je crois déjà les voir rire et se moquer entre elles du petit gourmand. Trois ou quatre jeunes gens tout près de là me regardent. » Le désir de Rousseau est condamné par timidité à être frustré. Et cette frustration conduit ce désir à croître, explique Starobinsky, va obliger Rousseau à chercher d'autres satisfactions obtenues par des voies plus oblique. Et c'est ainsi que le désir de l'être devient complexe. Pourquoi le jeune Rousseau a-t-il honte de son désir? Pourquoi cette angoisse dont l'ombre portée accompagne l'énoncé même du désir? Se demande Starobinsky. C'est son âme, l'âme de Rousseau, que cette question, l'âme humaine, elle est infiniment plus complexe qu'un test du marshmallow, comme si la seule question liée au désir humain consistait à savoir combien de temps un être est prêt à différer une jouissance. Qui disparaît avec Starobinsky, c'est une manière d'observer l'homme, l'homme dans sa complexité, et non pas l'homme mis en équation, lequel demeure pour l'essentiel un inconnu.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Herner.
Et nous allons revenir sur la disparition de Jean Starobinsky, grand intellectuel européen. On va aussi évoquer son souvenir et on continuera à évoquer l'Europe de la culture après avoir reçu l'Italien Eri De Luca. Le 11 février dernier, nous avons aujourd'hui le plaisir d'accueillir Emmanuel de Marcimota, metteur en scène franco-portugais, directeur du théâtre de la ville et grand promoteur du théâtre auprès de la jeunesse. Il est l'instigateur depuis 2010 du rendez-vous Chantier d'Europe. On évoquera avec lui l'Europe de la culture. Emmanuel de Marcimota, second intellectuel européen dans les matins, il sera là aux environs de 7h40. En attendant, il est 7h sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil.